Bonjour micro. Bonjour. Bonjour micro.
Est-ce que tu m'entends?
Je t'entends. Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Puisqu'un seul moment les efface. Multipliez vos jours comme les serres que la fable ou l'histoire de la nature fait vivre durant tant de siècles. Durez autant que ces grands chênes sous lesquels nos ancêtres se sont reposés et qui donneront encore de l'ombre à notre postérité. Entassés dans cet espace qui paraît immense, honneur, richesse, plaisir, que vous profitera cet amas puisque le dernier souffle de la mort, tout faible, tout languissant, abattra d'un coup cette vaine pompe avec la même facilité qu'un château de cartes, vain amusement des enfants. Que vous servira d'avoir tant écrit dans ce livre, d'en avoir rempli toutes les pages, de beaux caractères, puisqu'enfin une seule rature doit tout effacer. Bossuet, œuvre complète, serment sur la mort.
La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre. Chez les organismes vivants, elle se caractérise par un arrêt irréversible des fonctions vitales, nécessaire au maintien de l'intégrité de l'organisme. Ce qui la distingue d'un arrêt temporaire, comme dans le cas de l'hibernation ou la congélation. Alors, Gwen, c'est quoi le programme de l'émission d'aujourd'hui?
Alors, c'est l'émission. Alors, le thématique de cette émission, c'est la mort. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai vu ça sur quasiment trois angles, quoi. Donc, la mort d'un côté un peu plus intime. La mort au niveau des, comment ça s'appelle, version catastrophique. Et puis la version un peu plus drôle, parce que quand même, ils font un petit peu de drôlerie dans cette émission, quoi.
Et ouais. En général, dans le cinéma, ça abordait comment, selon toi, la mort, alors?
Bah, en fait, il y a différentes façons. Il y a ce qu'on peut appeler les films d'horreur, comme les Vendredi 13, les Halloween, les Freddy Krueger aussi, donc voilà. Et puis, il y a un côté un peu plus... Alors, attends, on va le trouver... Voilà. D'un côté un peu plus catastrophique, voilà, c'est carrément l'humanité qui est en train de mourir. Alors, il y a différentes façons, soit avec les extraterrestres comme Independence Day de Roland Emmerich, Cloverfield, Le jour où la Terre s'arrêtera, Prédiction, La guerre des mondes de Steven Spielberg.
Signe.
Voilà, c'est ça, Steven Spielberg.
Et il y a Signe aussi.
Il y a Signe aussi. Ah. Y a Je suis... Alors après, il y a aussi tout ce qui est Contagion, comme Je suis une légende, 28 jours plus tard de Danny Boyle.
Ah ouais, 28 jours plus
voilà,
tard.
Voilà,
ouais.
C'est ça. Et puis Contagion, qui est le dernier qui est sorti et qui a l'air d'être le plus réaliste.
Oh, super.
Voilà. Et puis après, il y a aussi la version La nature se venge de l'humanité, donc dans Phénomène, de Night Shyamalan. Le jour d'après, Twister, Armageddon. Et Deep Impact, Sunshine de Danny Boyle, de nouveau, celui qui avait fait Transpotting. Et puis 2012.
Transpotting.
Transpotting, oui, Transpotting.
Un français dans le texte.
Transpotting.
Trainspotting.
Ah ben oui, moi je fais l'anglais. Et puis donc Roland Emmerich qui est vraiment arrêté sur les films catastrophes, qui a aussi fait le fameux 2012.
Ah oui,
voilà, c'est
le
ça.
Fameux,
voilà,
qui nous fait tous un peu
voilà, c'est ça.
Psychoter.
Donc, voilà, c'est ça. Donc il y a tous ces films où carrément l'humanité, en quelques jours, en quelques heures, est complètement décimée. Donc voilà, après il y a quelques héros, évidemment, qui eux s'en sortiront.
Il faut faire un film, quoi.
Voilà, c'est ça. Bah oui, faut que... Et en plus, c'est que des personnages connus, donc eux, ils vont pas mourir, puisque c'est des acteurs qui sont quand même payés des millions.
Ouais,
voilà.
Bah, il faut les tenir jusqu'à
voilà.
La fin du film.
Après, il y a une version, moi je dirais, un peu plus intimiste, où là c'est vraiment la mort. Bon, je dirais pas vécu au quotidien, mais bon, comme un film comme 21 grammes de... Comment il s'appelle?
C'est Le poids de l'âme, 21 grammes, c'est ça?
Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait, de Alejandro González Iñárritu, celui qui avait fait Babel.
Oui,
voilà, c'est ça.
Donc... je l'ai acheté avec le supplément du Monde, je fais de la pub, c'est horrible. Wow. Hein, mais...
Non, c'est pas du tout. En fait, c'est l'histoire de plusieurs personnages, d'un professeur de maths qui est joué par Sean Penn, et puis avec sa femme, Charlotte Gainsbourg. Et il y a une autre histoire avec Jack, donc Beneficio del Toro, qui est un repenti. Et puis il y a aussi l'histoire de Naomi Watts, Christina, qui est une ex-toxico, qui a des enfants et un mari qui ont un accident. Et en fait, tout va être bouleversé à cause de cet accident. Voilà. Donc il y a vraiment cette histoire de mort. Et, voilà. Et puis moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est Virgin Suicide de Sofia Coppola. Voilà.
affaire à une rêveuse, complètement déconnectée de la réalité. Je vais t'inviter à sortir.
T'as aucune chance. Locke, fais-moi le plaisir de mettre un gilet.
Vous êtes un mordu de l'aviation ?
Oui, enfin, un mordu, c'est un peu exagéré.
C'est la lutte que tu préfères ?
Regardez, elle rit. Il la fait rire.
Je suis venu vous dire que mes intentions concernant votre fille sont tout à fait honorables. Mais quelles sont-elles, s'il vous plaît ?
On attend parler de ces filles au long des années.
Ces petites ont un bel avenir devant elles.
Mais nous n'avons jamais trouvé la réponse.
J'analyse son geste comme un appel.
Il paraît que c'était un accident.
Là où les pièces manquantes manqueront à jamais.
On a une voiture et toute l'essence qu'il faut.
Pas trop tôt. Vous vous êtes fait attendre.
Ton âge, on ne connaît pas encore les souffrances de la vie.
Manifestement, docteur, vous n'avez jamais été une fille de 13 ans.
Les quatre sœurs n'ont pas hésité à mettre leur vie en péril.
Nous ne saurons jamais comment les événements s'étaient enchaînés. Nous en discutons encore.
Donc, il est inspiré d'une histoire qui s'est passée dans les années 70, de cinq sœurs qui se sont suicidées. Et en fait, c'est le destin tragique de cinq sœurs.
De cinq vierges.
De cinq vierges, voilà. Et qui, en fait, c'est les sœurs Lisbonne qui décident de suivre leur petite sœur dans la mort et qui ont une correspondance assez étrange avec des cinq garçons. Donc il y a un lien pendant un été et tout. Et puis, qui décident d'en finir. Et ça fait, en fait, partie, moi je dirais, d'un cycle un petit peu, bon, pas spécialement que de Sofia Coppola, mais un peu comme American Beauty ou American History X, c'est-à-dire c'est des personnages qui sont morts et qui racontent l'histoire.
Ah oui, American History X, American Beauty, il commence par dire je suis mort.
Voilà, c'est ça, et dans American History X aussi, c'est en fait c'est le jeune garçon qui raconte l'histoire, donc voilà.
Oui, mais bon, pour le coup, là, c'est la grosse balance, parce que on sait pas pendant tout le film qu'il est mort.
Ouais, non,
mais... C'est là, vraiment c'est... une enflure, c'est comme Sixième Sens, ça.
Ouais, non, mais d'accord, mais enfin, bon, je veux dire, ce sont des films anciens, je veux dire, bon, voilà. Sinon, il y avait aussi The Million Dollar Hotel de Wim Wenders, qui est un film de 2000, et donc voilà, c'est à travers un long flashback qu'on découvre la vie d'un paumé, Tom-Tom, qui vit dans un palace dans les quartiers déshérités de Downtown et qui est amoureux fou d'Héloïse, qui est de Mila Djokovic. Et en fait, voilà, le film commence par son suicide, quoi.
Super.
Voilà, c'est ça. Et puis moi, j'ai retenu aussi Le Tombeau des Lucioles. Il y a...
Ah oui, qu'est-ce qu'il est triste, Takata, ce
voilà,
film.
C'est ça.
C'est de Miyazaki.
Non, c'est...
C'est de... pas de
Miyazaki. Takahata. Voilà, celui qui avait fait Pompoko. Et c'est très curieux parce qu'en fait, c'est un film qui a été créé en 1988 et qui arrivera en France qu'en 1996 ou 17.
Oui, bah pendant la vague justement où on a reçu tous les Miyazaki.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est le succès de Pompoko, apparemment au Festival d'Annecy, qui a fait qu'on est ressorti le Tombeau des Lucioles. Et voilà.
Il est ultra triste, c'est pendant la guerre.
Voilà, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est de,
au Japon.
Voilà, tout à fait. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Qui vont vivre la chute de l'empire japonais et qui vont mourir de faim, quoi.
J'ai pleuré.
Voilà, et en fait, c'est celui qui a écrit le livre, en fait, ça lui a vraiment arrivé. Enfin bon, lui, il n'en est pas mort, mais sa petite sœur, elle, par contre, en est morte.
Donc c'est l'inverse dans le film.
Voilà, c'est ça. Et en fait, la petite sœur aussi, elle meurt. Mais lui, il meurt à la fin aussi, donc voilà. Donc voilà, et c'est évidemment les studios Ghibli quoi, qui sont connus évidemment avec Hayao Miyazaki.
Ah, donc c'est pour ça que je confonds voilà, en disant ça. Que c'est Miyazaki.
Mais on confond souvent.
Il s'appelle comment ? Parce que comme ça peut permettre aussi.
Isa Takahata.
Takahata.
Voilà, Isao, je crois.
Isao Takahata.
Voilà, Takahata. Voilà.
Non, mais comme ça, on soulève quand même son nom plusieurs fois, de manière à ce que les gens se rappellent. Le tombeau des Lucioles et Pompoko, voilà, c'est Isao Takahata.
Takahata.
L'angoisse.
Non, mais c'est pas grave.
Bon, c'est un japonais, quoi.
Voilà, c'est ça, oui.
C'est pas Miyazaki.
Et puis, il y avait aussi un film qui est très joli, qui est créé à Cuervos, de Carlos Uhara, qui est un film de 1976. Et qui est espagnol. Donc
j'ai une très très mauvaise culture des vieux films comme ça.
En fait, c'est une histoire dans le Madrid des années 70. Anna, 10 ans à peine, a été témoin de la mort de ses parents. Son père est mort dans les bras de sa maîtresse et sa mère partie dans d'atroces souffrances, faute d'être aimée. Donc voilà, élevée par Paulina, sa tante maternelle se réfugie alors dans ses rêves et ses souvenirs pour retrouver sa mère. Voilà.
D'accord.
Donc c'est un très beau film et ensuite on s'est connu parce que il y a la fameuse chanson Por qué te vas.
Por qué te vas. Voilà. D'accord, ça je connais.
Voilà.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se yo no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Que plusieurs choses, donc c'est un peu dans le désordre, mais en gros que la mort était la limite de la puissance d'illusion du cinéma, parce que on va jamais vraiment, l'acteur va vraiment jamais vraiment mourir au cinéma. Donc on fait illusion, mais il n'y a jamais quelqu'un qui est mort en vrai dans un film.
Si, techniquement si, puisque c'est arrivé à Bruce Lee. Il y a eu le fameux coup où on devait lui tirer dessus à balle à blanc et il est mort avec une vraie balle. Et son fils, ça lui est arrivé la même chose dans le tournage de The Crow. Donc en fait, les deux films ont été finis sans que le comédien soit là, quoi.
Mais est-ce que les scènes où ils sont morts sont réutilisées dans le film qui est montré au public ?
Non, par contre, c'est vrai que le comédien, lui, est mort, le film est posthume. Mais effectivement, on n'a jamais tué vraiment un comédien pour les besoins du film.
Après, c'est snuff movie et c'est interdit complet.
Voilà, tout à fait.
J'ai aussi noté donc, le cinéma, le 7e art. Mm-hmm. Donc, au même titre que je suis incapable de citer les arts, mais il y a peinture, sculpture et compagnie. Et donc, dans les arts comme la peinture et la sculpture, par exemple, on n'est pas choqué par les modes vestimentaires, par la manière de se tenir, par les choses qui sont faites sur les tableaux. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas des documents parce qu'ils représentent. C'est des documents parce que on voit que c'est ancien et... Mais bon, on se dit pas, tiens, ils font quelque chose là, ça nous donne, à part pour certains spécialistes.
Voilà.
Alors que dans le cinéma et dans la photo, on est souvent choqué, enfin en tout cas, on relève les tenues vestimentaires, parce que c'est vraiment des documents qui attestent du temps, donc des documents réels, et où la vie est imprimée, et on sait que c'est quelque chose qui a vraiment existé. Donc ils ont aussi intégré, contrairement aux autres arts, toute l'inquiétude de leur temps, et donc la mort, parce que en peinture et en sculpture, la mort est représentée aussi, mais pas avec tout le dramatisme. Enfin, ça a pas le même côté dramatique et même le même côté représentatif que dans le cinéma ou dans la photo.
Je dirais que c'est surtout des instants figés. Alors que le cinéma, par contre, comme le théâtre, bon, peut-être plus le cinéma parce que c'est vrai que ça a tendance à bouger. Il y a la musique qui induit quand même quelque chose quand même.
Le comédien au théâtre, à la fin, il se relève pour saluer.
Voilà, tout à fait.
Au cinéma...
Oui, c'est vraiment de l'illusion jusqu'au bout, quoi.
Voilà. Et je pense que pour moi, voilà, c'est ce que j'ai noté, le plus haut paradoxe, du cinéma, c'est ce mystère de montrer la mort en préservant la vie, et de montrer la mort pratiquement systématiquement. C'est une des grandes fascinations du cinéma.
Moi, je dirais qu'il y a deux versions. Il y a soit ce côté où, en fait, je ne sais pas qu'elle soit annihilée, mais je veux dire, quand tu vois des films d'action, les mecs, ils tuent à tout va. Je veux dire, c'est d'une facilité déconcertante et il n'y a même pas quasiment de remords. Et puis, tu as d'autres films où, au contraire, on se pesantit vraiment sur ce qu'est la mort, sur toute son horreur. Genre, même il y a des films où la mort est personnifiée, comme La Rencontre avec Joe Black, avec Brad Pitt. Et donc voilà, quoi, il y a ce côté-là où... voilà,
je suis coupé. Je sais plus.
Je sais plus.
Mais du coup, je pense que c'est dramatique et en même temps, c'est montré pratiquement de manière systématique. Et donc, c'est montré de manière très différente à chaque fois. La caméra, la photo ou le film, ils capturent le réel. Mais le réel que même nos yeux annihilent, justement. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, on se préserve, on peut fermer les yeux, voilà. On cherche toujours cet espoir de vie, alors que pour se préserver, alors que la caméra ne peut pas faire ce genre de choses. Et du coup, quand on est remis face au cinéma, on perd tous nos filtres, toutes nos protections, et ça peut nous frapper en plein cœur. Et je pense que voilà, du coup, le cinéma nous montre dans la mort, entre autres, ce que notre conscience tente d'esquiver au quotidien. Mmh. Et donc, c'est ce dont tu parlais avec les films d'action, où justement la mort est banalisée. Et contrairement aux films où la mort est mise en scène vraiment pour ce qu'elle est, ça retranscrit la violence, la douleur. J'ai même marqué « elle choque ». Et l'espoir dans la vie, c'est bien ce que la caméra n'est pas capable d'inventer.
Oui. Et puis je pense qu'il y a aussi, bon après il y a tout ce qui est littérature aussi, mais des films comme Dracula ou Un 31 avec un vampire, c'est-à-dire que c'est des gens qui, il y a ce besoin d'échapper à la mort. Je veux dire, que ce soit toute la fantaisie, enfin non pas la fantaisie, mais toute l'horreur tous les films d'horreur, c'est ce côté-là où on montre la mort, dans ce qu'elle est la plus cruelle, ce qu'elle est la plus affreuse. Et il y a ce côté du vampire où, voilà, c'est un être qui échappe à la mort. Alors, il y a toujours une malédiction, puisque effectivement, il voit tous les siens mourir, et puis il a besoin de se nourrir du sang, puisque le sang, quelque part, c'est la vie. Donc voilà, je veux dire, il y a cette histoire d'entretien avec le vampire où, en fait, le personnage de Brad Pitt est, entre guillemets, vraiment entre guillemets, sauvé par le fameux Tom Cruise, les stats. Et donc voilà, et en même temps, d'un côté, c'est une délivrance, parce qu'effectivement, il échappe à tout cette horreur de l'être mortel, mais en même temps, il voit que pour lui, c'est très difficile. Et il y a ce fameux petit personnage de Claudia, Kirsten Dunst. Donc on retrouve aussi dans...
Kirsten Dunst. Non, mais on remet les noms aux gens.
Tout à fait. Elle a raison. Donc voilà, et qui, elle, est maudite parce que en fait, elle ne sera jamais vraiment une femme. Et elle est éternelle, quoi. Donc, c'est
oui, parce qu'après, ça nous ramène au fait qu'on meurt un peu tous les jours.
Voilà.
On peut dire qu'on vieillit ou on peut dire qu'on meurt un peu tous les jours.
Oui, tout à fait. Et bah, d'ailleurs, c'est très curieux parce que, regardez, ce film, l'histoire de Benjamin Button, où là, il y a encore Brad Pitt, et ben, c'est très curieux parce que ce personnage naît vieux et plus il va évoluer dans sa vie et plus il va rajeunir. Et c'est très curieux de se dire qu'on fait une histoire là-dessus alors que nous, tous les jours, ben, on vieillit, on meurt et on n'en fait pas tout un film non plus. Donc voilà. Et lui, juste par le fait que c'est inversé, et ben voilà,
ça fait une histoire.
On est vraiment, on appuie dessus sur se dire qu'on voilà, on est mortel alors que voilà.
Ça c'est sûr.
Voilà.
Je connais un homme qui a dit un jour, la mort nous sourit à tous. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire à la mort.
Je me demande si ton ami a souri à sa propre mort.
Tu dois le savoir. C'était ton père.
Doudoudoum.
Doudoudoum.
Shabadabada, shabadabada, badida, dibadi, badi, babadi, badi, badida, babidi, bidi, bibidi, bidi, didi, didi, didi. Un homme, une femme, Radio Diwa.
Moi, j'ai choisi des trucs qui sont sortis en 2010, en 2003 et en 2004. J'ai choisi un premier film qui s'appelle Piranha 3D.
Yo!
Tu l'as vu ou pas finalement?
Ah non, moi, j'ai pas regardé. Non, c'est vraiment pas trop ce genre de film que je regarde.
Ah, bon. c'est naze. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, alors, comme à mon habitude, j'ai regardé un peu les critiques, je les ai pas ramenées, mais ils disent vraiment du bien de Piranha 3D, c'est ouf. C'est vraiment folie.
Alors, non, c'est parce que c'est en 3D ou c'est parce que c'est le film en lui-même qui est bien?
Bah, en tout cas, moi, je l'ai vu sur l'écran de mon ordinateur, donc j'ai pas encore le 3D sur mon ordinateur et c'était naze. Donc peut-être que c'est le 3D qui fait que... Bon, enfin, il y a des scènes de chorégraphie, de danse sous l'eau entre deux gonzesses qui font du film porno, je pense... Enfin bref. Donc, ils disent qu'effectivement, en 3D, ça a rendu un truc de folie.
Oui,
quoi.
Mais voilà, c'est ça, oui.
Et les piranhas qui mangent tout le monde. Enfin, en gros, oui, l'histoire est simple. Hein. On est sur un lac aux États-Unis. Il y a 20 000 étudiants qui sont en spring break.
Ah, oui,
ils sont tous défoncés. Mmh. Et en fait, il y a une faille qui s'est ouverte. Il y a un lac sous le lac. Et il y a une race de piranhas dans cette faille qui a survécu depuis l'époque préhistorique.
Oui.
Et qui est une race de piranhas hyper méchante et qui mesure une... comme ça. Qui mesure comme ça.
Ouais, c'est vachement radiophonique.
Qui mesure une trentaine, quarantaine de centimètres.
Voilà. Du bon piranha, quoi.
Du bon piranha, ouais. On dit piranha?
Une piranha.
Piranha, piranha.
Piranha.
Et donc, et alors, ce qui est intéressant, que je ne savais pas quand j'ai regardé le film, c'est que c'est par Alexandre Aja, qui est un Français.
Tout à fait, oui.
Et d'ailleurs, c'est Alexandre Jouan, en vrai, mais c'est son pseudonyme. Oui. Et il a fait La Colline à des yeux, ce mec.
Voilà, tout à fait, oui.
Ouais, horrible.
C'est un spécialiste. Oui, ouais, c'est un spécialiste du film d'horreur.
Voilà, et donc là, dans Piranha 3D, la mort est traitée de manière... Enfin, il y a un commentaire des Inrecuptibles sur le film qui dit « Mention spéciale à la mort par... » par le chignon arraché et par et par la meuf qui fait du comment on appelle ça, du ski nautique là.
Voilà. Oh,
il y en a une qui se fait arracher la moitié du corps, l'autre qui se fait arracher enfin il y en a plusieurs qui se font arracher la moitié du corps. Puis une qui se fait arracher par les cheveux en fait, ça lui fait... enfin, c'est horrible.
Elle se fait scalper vivant.
Voilà, non, c'est violent mais en même temps c'est tellement drôle.
C'est-à-dire c'est tout ce côté absurde de ces films, voilà. Je te dis comme Vendredi 13 et tout, où voilà les gens sont, ou même des destinations finales.
Au final, voilà, 1, 2, 3, 4, 8, 24, 32.
C'est ça, voilà, t'en donnes. Donc c'est ce truc où on est vraiment face à la mort dans toute son horreur, et que je pense qu'il y a même, il y a le fameux La Nuit des Morts Vivants de Romero, qui est un grand classique, Romero des zombies.
Mais voilà, et c'est des trucs qui ne peuvent pas arriver, enfin j'espère. Non mais parce que non. C'est horrible. Non mais tu vois, à la moitié, c'est que comme la semaine dernière avec les histoires d'amour, là, je veux dire, moi je vois si je vois la moitié de mes potes mangés par des piranhas dans un lac où on est allé faire la fête, mais comment tu fais pour te reconstruire psychologiquement après ça, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, et puis mais en même temps, moi je trouve que c'est des films comme ça s'appelle, bon, entre guillemets, pour les ados si on veut, ou un peu plus pour jeunes adultes, parce que c'est vrai que c'est ce côté-là où c'est la période où on sent immortel, où tout est possible, et en même temps c'est vrai que quand tu vois tous ces films d'horreur, c'est quand même souvent des jeunes. Moi je vois assez rarement des films d'horreur avec des vieux ou carrément avec des bébés.
Voilà. Non, ça serait super trash. C'est ça, c'est fou. Pourquoi est-ce que c'est plus trash?
Mais parce que oui, c'est ça, ouais, on peut se demander surtout avec les petits vieux.
Voilà. Le politiquement correct. Ouais.
Mais voilà, c'est ça. Non mais je veux dire, il y a ce côté-là où on est insouciant et tout, puis bon, après on a tous ces trucs où les jeunes se retrouvent dans une villa abandonnée, qui se séparent pour aller deux dans la cave et deux dans le grenier et tout. Tu sais parfaitement qui c'est qui va s'en sortir, parce que il y a le beau gosse, la belle nana, et tu sais, et qui se connaissaient un petit peu, qui, tu sais qu'il y a une histoire d'amour, quoi. C'est qu'il y a des possibilités.
Wesh.
Et ben voilà, et en fait tous leurs copains vont mourir, tu sais pertinemment qui c'est qui va mourir. Bon, après, à savoir comment. Soit on tombe carrément dans la série Z, où alors là c'est des ectolytes d'hémoglobine.
J'y viens.
Voilà, c'est ça.
Ensuite, j'ai un autre film que vous devez certainement connaître qui s'appelle Les Petits Mouchoirs. Et je sais que tu l'as vu celui-là.
Oui, je sais. Et que j'adore, et que tu vas avoir le plaisir de descendre, je le sens.
Un accent pour des serviettes?
C'est pas, tu fais comme tu veux, moi j'en ai pris une. En même temps, on va faire du bateau, donc il y a de l'eau autour.
Et bien chez toi, hein, Jean-Louis. Hein,
il y a un mec que je connais qui est descendu en bagnole de Paris pour me voir.
Bonsoir.
Et voilà, il va dormir où, là?
Dans son cul. Pardon.
Véro, ça, franchement, ça va, c'est bon.
Si t'as envie de te boucher les artères, tu fais ce que tu veux, mais moi, je veux pas de ça chez moi.
Combien de fois je vous ai dit de ranger le tuyau d'arrosage? Et voilà, voilà, et ça fait les traces jaunes. Bon.
Vincent, que je te demande un conseil. Non, tu peux arrêter ça deux minutes, je vais pas y arriver là.
J'ai revu Juliette.
Ah, mais un truc de dingue. Ça fait déjà plusieurs mois que je ressens un truc bizarre quand je te vois. J'ai même pas envie de coucher avec toi. Hein. Bon, peut-être que ça viendra.
Bon, ça va pas maintenant, quoi. Tu deviens complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin!
Je manque mon petit Ludo, mais.
La chère poularde, un plat incroyable, confectionné tout en maïs.
Ah, ben voilà, Paris tenu.
Il continue toujours ces conneries là.
Ah, il était complètement défoncé au moment de l'accident.
Pourquoi t'as jamais voulu être avec moi en fait?
Chaque fois que tu te fais larguer, tu recommences.
Léa!
Toi, on est pour faire larguer.
Vincent, qu'est-ce qui se passe avec Max?
Moi, je t'ai pas vu, petit tricheur humide. Les règles, c'est 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Bonjour, c'est le proprio.
Max, il y en a ras-le-bol de tes angoisses à la con. Si t'arrives pas à te détendre, eh ben repars travailler, ça nous fera des vacances.
C'est 15 jours là que je vois tous soi-disant amis, là, en train de vous mentir les uns les autres. Mais c'est quoi être ami? C'est votre pote tout seul à l'hosto pendant 15 jours parce que vos vacances et votre petit confort, c'est plus important.
Yeah.
tu m'entends? Je voulais juste te dire quelque chose de très important. T'es vraiment une belle personne, Ludo.
Le public a adoré. Alors déjà, je tiens à souligner que c'est donc Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet.
Oui, tout à fait.
Qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est sorti en 2010, qui a fait un succès assez incroyable. J'ai même entendu des gens dire, alors ça c'est un truc que j'entends souvent, bah, par exemple pour Intouchables, ils nous l'ont ressorti encore. Je suis allée le voir 5 fois. Alors déjà, moi, aller voir un film au cinéma maintenant, c'est 10 euros, donc ça me fait mal.
Oui, tout à fait.
Mais alors aller voir un film 5 fois?
Mais ça dépend.
Au cinéma ?
Mais c'est peut-être qu'ils sont pleins d'espoir et qu'ils croient que la fin va être changée et que le mec il va te sauver à la fin.
C'est ça.
Jamais.
Le film dure 2h34.
Tout à fait, oui.
Bon, ça ne choque personne.
Ah non, non, mais non, mais bah, en même temps, moi je te dis, j'ai adoré. Donc, moi,
ah oui, c'est ça. C'était 2h34 de pur bonheur. Merci. Donc, avec Marion Cotillard, qui est super, Benoît Magimel, que j'adore, François Cluzet à mort, Gilles Lelouch, Jean Dujardin, bon, fait une apparition.
Voilà.
Enfin, en fait, il a fait un film avec ses potes.
Oui, mais tout à fait. Oui,
donc,
oui. Et
très
puis
bien.
Aussi le fameux. Comment ça s'appelle ?
L'ostréiculteur.
L'ostréiculteur, qui est aussi un ami aussi.
Ah, oh, attention, il s'est renseigné. Il est fan. Alors, j'ai un problème avec ce film. Donc, il parle de la mort dans le sens où, à la fin, il y a un personnage qui meurt. Mais bon, là, je dévoile absolument. Non, mais je dévoile absolument pas la fin. Excuse-moi, mais on s'en doute dès les 2 premières minutes du film.
Mais tout à fait.
Les premières minutes du film, c'est un mec qui est en boîte, qui est complètement drogué, qui part en scooter. Attention, on se croirait dans une pub pour la prévention routière. D'ailleurs, je sais pas si je me souviens
tout
pas.
Tout à fait.
J'ai
tout
pas fait. Je sais même pas si j'ai pas l'impression, quand j'ai regardé le film, que je me suis dit, bah, le film n'a pas encore commencé. Tu sais, c'est une pub pour la prévention routière et puis on va se choper le film après quoi. Enfin,
Non mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est pas
il se fait faucher par un camion ou un truc comme ça, mais
un camion
d'une violence et donc forcément bah en scooter tu perds contre le camion.
Oui.
Et il se retrouve en réa. Là où les choses peuvent changer du jour au lendemain, il y a tous ses potes qui vont venir le voir. Bon, cool.
Voilà.
Ils avaient prévu de partir en vacances 3 jours après,
oui,
je crois.
Oui, en fait, c'est des vacances qu'ils prennent chaque année. Donc, c'est vraiment un truc, un événement, voilà.
Ouais, hein, d'accord. 2 semaines de vacances dans une maison sur la côte. Donc, c'est
voilà,
quoi? C'est à la Baule? C'est où?
Arcachon.
Arcachon.
Ouais, vers la grande dune du Pilat.
Ouais, voilà, c'est la côte atlantique.
Voilà, tout à fait.
Et donc, ils prennent 2 semaines de vacances. Et alors... ils vont quand même partir alors que leur pote, qui fait partie de leur groupe de potes, super soudé.
Oui,
c'est
tout
ça
à fait. Oui, oui, super soudé.
Et dans le coma, dans une situation entre la vie et la mort.
Voilà, tout à fait.
Ils partent en vacances. Et alors, déjà, il y a un premier truc qui me dérange, c'est qu'il y a une espèce de scène consensuelle au pied d'un platane en dessous de l'hôpital, où ils se regardent tous en disant « on part ou pas ?» Non, parce que c'est compliqué quand même. C'est la fameuse scène où ils doutent 2 minutes, est-ce qu'on part ou pas ? Parce que c'est quand même des gens qui vont faire tout le film. Donc il faut qu'en tant que spectateur, t'aies l'impression que c'est des potes, alors qu'en fait, c'est des véritables connards dès le départ. Mais bon, comme c'est quand même le film, du coup, ils font leur vie. Le film ressemble à Les Bronzés font du ski en moins bien. Et non, mais voilà, on rigole.
Oui, tout à fait.
On rigole, mais bon,
ça ne te
marque pas les esprits, hein, franchement.
Bah, ça dépend. Moi, je trouve qu'il y a quelques scènes. Voilà. Bon, après.
Bon, ça, c'est subjectif.
Voilà.
On rigole. Bon, très bien. Pendant 2h34, moi, j'ai dû rigoler. Je sais pas. Et pendant une demi-heure, donc déjà voilà, pendant 2 heures c'est le film, et pendant une demi-heure c'est la mort.
Voilà.
Sur une chanson d'un artiste qui s'appelle Ben Harper, que j'apprécie énormément, donc ça m'a gavé déjà.
Attends, ça allait pas être Dorothée ou je sais pas, ou René Latope non plus.
Non mais bon, ça m'a permis de pas trop m'ennuyer, j'ai écouté la musique, mais c'est vrai que pendant une demi-heure, la scène de l'enterrement et compagnie, et c'est trop triste, alors que ça fait 2 semaines qu'ils sont en vacances et qu'ils se marrent comme des baleines.
Voilà, tout à fait. Et puis le fameux coup où les deux amis se réconcilient sur le cercueil de l'autre.
Ah oui, bon, sur le cercueil de l'autre, ouais.
Non mais ça c'est un classique du cinéma. Non.
Donc j'ai trouvé ça nul, si vous n'aviez pas encore compris. Et d'ailleurs, je le dis à qui veut l'entendre, et si vous voulez entendre tous mes arguments, parce que bon, là, je suis quand même sur une émission, donc je n'ai pas non plus toute la latence que j'aimerais, mais je peux vous le détruire pendant longtemps. J'ai pas aimé du tout. Et en plus, c'est toujours ce truc que quand les films font l'unanimité, comme ça, ouais. Là, comme Intouchables, les petits mouchoirs et compagnie, de toute façon, moi, je peux... On ne peut pas aller tous dans la même opinion. Il y a un moment
Mais c'est ça. Moi, je trouve tout à fait normal que... Bah, moi, souvent, quand c'est des films qui ont marché, style un petit peu Bienvenue chez les Ch'tis ou d'autres, c'est vrai...
Non, mais c'est des pièges à cons, ces films.
Ça dépend. Parce que... Non, mais ça dépend. Après, moi, je trouve que ça les dépasse complètement. Parce que ça... Enfin, oui. Je veux dire, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est juste un film...
Ah, mais je ne suis pas du tout énervé contre Canet. Hein.
Non, non, mais
je ne suis pas du tout énervé contre Danny Boone non plus.
Non, mais tout à fait. Non, mais je veux dire, à un moment, quand ça commence à dépasser je ne sais pas combien de millions, c'est le film à voir. Et d'un coup, les gens sentent obligés que ça va être un film qui va les bouleversifier au niveau de l'existence. Alors que non, c'est juste un film qui plaît.
Il y a des films qui te bouleversifie ton existence, justement.
Non, mais
cela, non. Mais cela, non.
Oui, mais alors, ça fait partie des mystères du cinéma. Pourquoi certains films qui peuvent bouleverser, eux, par contre...
Bah, c'est pas du tout un mystère. C'est même combat. Hein. Bienvenue chez les Ch'tis, Les Petits Mouchoirs, Intouchables. Mmh. Les trois grands succès français de ces dernières années-là.
Tout à fait.
C'est le même truc. Tu vas voir ce film et tu te dédouanes t'as reçu plein de bons sentiments et du coup c'est bon, tu vas mieux dans ta tête, tu vois. Bienvenue chez les Ch'tis. Oh, c'est vraiment bien cette vie de campagne alors qu'on est tous des connards d'individualistes chez nous. Les Petits Mouchoirs, oh là là, qu'est-ce qu'ils seront bien en vacances. Il y a quand même quelqu'un qui est mort, donc tu t'es dédouané d'un truc, c'est bon, il y a pas tout le monde. On peut aussi faire des erreurs, eux aussi ils ont des problèmes, eux aussi ils sont gays, eux aussi ils fument des pétards, eux aussi ils se font plaquer par leurs gonzesses, eux aussi ils ont des problèmes de thunes, enfin. De toute façon, c'est un sac, ce film. Et à la fin, Intouchable. Oh, tiens, les handicapés, c'est vraiment horrible. Tiens, je suis allée voir ce film, j'ai mis ma pierre à l'édifice, quoi. Mmh. Tu vois, et donc, tu te dédouanes d'un truc, t'es allé au cinéma, t'as l'impression que t'as payé ta place et que c'est bon. T'es responsabilisé face à toute l'humanité entière, quoi. Non, mais allô. C'est stop.
C'est pas faux. Non, mais je suis d'accord. Mais bon, voilà, après. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression que ces films.
Non, mais toi, t'as bien aimé.
C'est bon. Non, mais oui, non, mais bon, voilà. Mais ça n'empêche pas d'être critique quand même.
Ouais.
Je sais. Moi, c'est vrai que je suis un public assez facile, je t'avouerai. Mais bon, voilà, quoi. Ça n'empêche pas que pour certains trucs, effectivement, si tu commences à rechercher, que ce soit les films comme Intouchables ou Bienvenue chez les Ch'tis, je veux dire, c'est le fameux grand classique. Tu mets un personnage X dans un élément Y, et là, bizarrement, tu vas avoir tous les trucs comiques. Je veux dire, c'est une vieille recette du cinéma américain. Tu mets deux types que tout oppose en couple et qu'ils sont obligés de faire une mission ensemble. Et forcément, il y a des quiproquos et tout. Quoi.
Bon, bref, Les Petits Mouchoirs, c'était naze. Et
voilà.
Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables, je n'en parle point. Ce sera sur d'autres thèmes. Mon dernier film qui est en deux volumes, Kill Bill.
Il n'y a pas si longtemps, j'étais une vraie professionnelle. Mes amis et moi, nous étions la crème de la crème dans un secteur d'activité très fermé. On travaillait tous pour cet homme, Bill. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, de me ranger, de commencer une nouvelle vie. Mais quand j'ai voulu partir, ils m'ont réglé mon compte. Tu ne te réveilleras plus. Il faut croire qu'ils s'y sont mal pris.
Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser.
Tu supposes bien. Maintenant, soit je tue, soit je suis tuée.
Tu as le droit de prendre ta revanche.
Ma revanche ? Œil pour œil, il faut que je te tue alors. Ça en mettra les pendules à l'heure. Alors j'ai décidé de tuer.
Salut, maman, c'est moi.
Bonsoir, ma fille. Ça a été l'école ?
Un billet pour Tokyo, s'il vous plaît. Allez, simple.
Cette femme mérite de se venger. Et nous méritons de mourir.
Alors il paraît que ça a été dur.
L'idiote à la peau blanche aime jouer du sabre de samouraï.
Oui. Oh. Il y a d'autres sbires à liquider.
Salut.
Ah.
Tu ne croyais tout de même pas que ce serait si facile.
Pendant une seconde. Si, je dois dire que j'y ai cru.
Tu es trop bête.
Le plus dur est fait.
Ouais, j'ai dit deux trucs qui étaient nuls, alors là, je dis un truc qui est vraiment bon. Tarantino, le rapport voilà. à la mort de Tarantino. Bon,
voilà, tout à fait.
Bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé de Kill Bill ?
Ah bah, moi, j'adore.
Oh putain, c'est génial.
Non, non, franchement, c'est... que ce soit la musique, parce que je veux dire, Quentin Tarantino, au niveau de la musique, c'est quand même quelque chose. Et puis, la fameuse infirmière qui siffle, ça aussi, le début. Et puis, toute cette... je pense qu'il a été très influencé par les vieux films japonais et tout. Et qu'il y a vraiment un truc. Mais de toute façon, dans toute son œuvre, que ce soit...
Il y a une glorieuse, un grain, il
voilà,
y a une
couleur. Il y a une Glorious Bastard ou Jackie
Pulp
Brown.
Pulp Fiction.
Pulp Fiction, ouais, ça, que Pulp Fiction, c'est une claque déjà d'office, quoi.
Ah ouais, voilà. Donc... ah non, mais Kill Bill, si vous ne l'avez pas vu, il faut courir à acheter le coffret double DVD bonus. Alors là, pour le coup, non, ça vaut le coup, vraiment. Voilà. Moi, je
après,
l'ai.
Après, il y a ce côté, bon, après, parce que les gens vont dire oui, non, mais c'est pas vraisemblable. Une nana contre 70 types qui coupe des bras.
88
qui coupe des bras, des jambes et tout, et que voilà, les types repartent. Tu fais oui, d'accord, mais enfin, bon, ça, c'est l'avantage du cinéma, c'est que. Voilà.
En plus, je crois que le cœur peut vraiment faire ce genre de truc. Hein.
Ouais, mais enfin,
bon, pas à ce point-là. Mais...
Non, mais je veux dire, à un moment, ton cœur lâche parce que physiquement, il supporte pas la douleur ou un truc comme ça. Quoi. C'est quand même des chocs. Mais non, je veux dire, c'est le cinéma. Je veux dire, on accepte qu'il y a des morts vivants. On accepte que d'un coup, t'as les colères des titans. T'as des trucs quoi, qui sont vraisemblables. Je veux dire, regarde les James Bond, ils font des cascades de fous.
Ouais.
Et ben, on accepte. C'est à un moment, on parle. Du postulat, ça existe. Voilà.
Donc, Kill Bill, c'est Uma Thurman. Et ouais, elle est belle en plus. Hein. Qui sort d'un coma de 4 ans. Parce qu'on va le comprendre, elle s'est fait tirer dessus le jour de son mariage, même de la répétition de son mariage, je crois.
Voilà, en plus,
par un commando armé. Et en fait, ce commando armé, c'est son ancienne équipe avec qui elle travaillait. Et elle se réveille avec une seule idée en tête, après 4 ans de coma, se venger. Et donc, elle va tuer les 4. Du commando et puis Bill à la fin.
Voilà, tout à fait.
Et donc le film s'appelle Kill Bill.
Ouais.
Et c'est fou parce que le nom, le prénom et le nom de famille de Uma Thurman dans ce film, ils vont être dits une seule fois dans un espèce de flashback étrange. Et du coup, personne retient son nom.
C'est pas faux.
Donc c'est Kill Bill, enfin, elle s'appelle Kill Bill, on va dire, parce que. Et du coup, elle va faire ça à coup de sabre, à coup de katana, de pro.
Et puis moi, je trouve que ce qui est aussi extraordinaire dans ce film, c'est tout le, comment ça s'appelle, le passage de des histoires de ces personnages, notamment. Je me rappelle plus le nom de la japonaise, enfin sino-japonaise.
Ah oui, quand ils expliquent pourquoi elle en est arrivée là, elle aussi.
Et c'est tout en animation, et je trouve ça excellent quoi d'avoir incrusté ça dans
c'est
dans
beau,
ce film.
Hein.
Non mais franchement la musique là aussi bon.
Ah oui.
Voilà. Après moi le seul bémol c'est la nana, ça fait 4 ans qu'elle est dans le coma, elle sort, elle se traîne, elle arrive dans la voiture et en je sais pas combien de temps.
Mais elle est trop forte.
Elle peut remarcher. Donc voilà, il y a juste.
Oui, mais elle galère un peu. Hein.
Ouais, non, mais. Oh, super galère.
Attends. Mais... elle galère un peu.
Non, mais bon, enfin bon, c'est là où on dit que bon, il y a des facilités scénaristiques. Mais bon,
non,
ça c'est normal.
Mais non, mais parce qu'elle est super forte. C'est non, ça qui c'est... est génial. Elle est... Non, mais ça, c'est... je comprends, c'est parce que t'es un mec. Et non, mais elle est super forte. C'est... Voilà, elle est super forte, Kill Bill. Elle s'appelle pas du tout comme ça en vrai.
KB, elle s'appelle.
On ne sait pas comment elle s'appelle. Et donc, j'ai le droit de le dire parce que j'ai regardé les bandes-annonces que je vais vous mettre. Mais j'ai le droit de le dire parce que dans la deuxième bande-annonce, c'est dit. En fait, ce qui va se passer, c'est quand elle va arriver pour tuer Bill, à la fin, quand elle a tué les 4, elle se retrouve devant sa fille.
Tout à fait, oui.
Et donc, c'est fou. Et donc, sur le volume 1, il y a des critiques qui disent que c'est un peu léger, que franchement, c'est quand même du sang pour du sang, qu'on ne comprend pas bien où ils veulent en venir, etc. Et sur le volume 2, je te jure qu'il n'y a que des 5 étoiles ou des 4 étoiles. Parce qu'ils disent tous, oui, l'apogée de l'œuvre de Tarantino, c'est génial, il oublie un peu ses effusions de sang pour plus de poésie. Et en fait, c'est un film super poétique, c'est une histoire géniale. L'histoire est magique.
Ouais, mais ça, c'est, ça,
la photo est magique. Voilà. La musique est super. Mmh. Les personnages sont léchés comme il faut. Le scénario est tip-top. Je veux dire, ils jouent tous admirablement bien. Enfin, moi, c'est un de mes films cultissimes, quoi.
D'accord.
Donc, Kill Bill par Quentin Tarantino. Mmh. Allez-y. La chronique des films du Pestel.
On va faire un peu plus léché que la semaine dernière. Donc
ah,
voilà.
Est-ce que tu as fait des recherches?
Voilà, donc il y a...
Hunger Games.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est interdit au moins de 13 ans.
Tout à fait.
Interdit au moins de 13 ans.
Et en fait.
Interdit au moins de 13 ans.
Oui, oui, ben j'ai pas 13 ans. Donc en fait, c'est le nouveau livre de science-fiction. Enfin, c'est
le nouveau livre.
Non, c'est le nouveau triptyque. Parce que ça va.
Ah, parce qu'il y en a 3.
Alors techniquement, il y en a 3. Il y a 3 livres, mais ils vont en faire en 4 films. C'est le fameux poussin en ce moment qu'on a eu, hein, le fameux Twilight, le fameux Harry Potter.
Je savais qu'il allait en avoir un
voilà,
deuxième, mais je ne savais pas que c'était 4.
Donc voilà, et en fait, voilà, donc, c'est la nouvelle héroïne. Donc, c'est l'histoire de Katniss Everdeen, donc une jeune adolescente de 16 ans qui vit dans une Amérique post-apocalyptique connue sous le nom de Panem. Donc voilà, et en fait, chaque qui est divisé en 12 ou 13 districts, voilà, 12 districts, et en fait, chaque district doit donner un tribut d'une fille et un garçon qui vont se combattre pendant ces fameux Hunger Games.
C'est tiré au sort.
Voilà, ils sont tirés au sort, et donc, en fait, l'héroïne va...
Elle n'est pas tirée au sort.
Non, elle est, c'est sa
c'est
petite
sa
sœur.
Sœur qui est tirée au sort.
Sa petite sœur, voilà, et en fait... Elle va passer à sa place. Donc voilà, et puis il y a toute une histoire autour.
Oui,
donc,
après elle tombe amoureuse.
Voilà,
et amoureuse. Et puis le problème, c'est qu'apparemment, ce que j'ai vu moi sur internet un peu, parce que ça y est, il est sorti. Alors les médinettes ont mis leurs commentaires. Le problème, c'est que la nana, elle est amoureuse avant de partir.
Ouais.
Avec un
voilà.
gars qui va garder sa sœur.
Voilà.
Et après, elle est amoureuse aussi dans le jeu. Et c'est un combat. À mort.
Voilà, tout à fait. Oui, non, mais ça, c'est le grand classique. Hein,
ça me fait penser à Battle Royale.
Voilà. Mais justement, ils ont pas mal de gens ont dit que justement, la saga littéraire a été un plagiat du roman Battle Royale.
Ouais, mais Battle Royale, c'est hyper glauque.
Et puis.
Hasta la vista.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est le.
Ça a l'air génial, ça.
Alors,
moi, je vais aller
tout
voir
à fait.
Ça.
C'est un super petit bijou. Et c'est un film. Alors, c'est. Alors, excuse-moi, mais c'est dans le prolongement d'Intouchable, puisque c'est aussi des problèmes d'handicapés.
Ça a l'air mieux qu'Intouchable.
Oui, mais c'est mieux, parce qu'en fait, ça a l'air un peu plus cru. C'est l'histoire de trois amis là, qui sont handicapés et qui veulent découvrir l'amour physique. Et ils savent qu'apparemment, en Espagne, il y a un bordel qui permet ça, donc ils vont y aller. Donc, il y a toute une histoire et tout, d'amitié, d'amour, de sexe et tout. Mm. Donc, ça a l'air d'être vraiment...
D'ailleurs, le Nouvel Obs dit... Un intouchable version road movie flamand, volontiers mécréant, jamais lisse, ni
oui,
politiquement
oui, tout
correct.
À fait. En plus, il me semble que le réalisateur avait découvert en fait un documentaire qu'un tétraplégique avait fait, notamment sur ce bordel. Et
ah, donc ça existe en vrai?
Apparemment, ouais. Et puis il y a le film aussi, Bi n'aie pas peur.
Attends, mais là, ça y est, donc t'as conclu. Hasta la vista, c'est fini.
Non, mais si tu veux rajouter quelque chose, moi je ne suis pas contre.
Non, mais d'accord, très bien, c'est fini. Mais bon, il faut aller le voir celui-là. Hein,
ah oui, mais celui-là, il faut absolument aller le voir.
Quand est-ce qu'il passe? Alors attends. Jeudi à 17h30, vendredi à 21h, dimanche à 17h30.
Il faut juste rajouter les jours.
Ben, c'est la semaine prochaine.
Ouais, voilà, oui.
Jeudi 19 voilà, avril à 17h30, vendredi 20 à 21h, dimanche à 17h30, lundi 23 à 17h30 et mardi 24 à 21h. Mmh. Ouais, il faut aller voir ça.
Ouais, tout
très,
à
très, très bien.
Très bien.
Et Hunger Games qui fait 2 passages samedi 21 à 15h et à 20h45.
Bah, disons que ça, c'est le film. Comment ça s'appelle?
Un succès.
Le film à succès, voilà.
Bi n'aie pas peur.
Voilà, alors donc ça, c'est un film.
De Pandang. Di.
Voilà, c'est ça. C'est un film vietnamien, si j'ai bonne souvenir.
C'est ça.
Voilà, tout à
fait. Vas-y, dis-moi tous les acteurs. T'as pas tous les acteurs.
Ah, non, ça, par contre, désolé.
Ah, c'est trop drôle.
Non, non, oui.
Il y a Pan Tan Minh. Je dois avoir un accent vietnamien pourri.
Oui.
Tran Tien.
Voilà.
Et Hoa Thuy.
Voilà.
Et tant d'autres.
Voilà. En fait, c'est le grand-père malade qui débarque après une longue absence. Le père de Bi fuit le foyer pour éviter son père, parce qu'apparemment, il y a un problème entre eux. Et il boit, et lui, il a une relation assez spéciale avec une masseuse. La mère de Bi, elle ferme les yeux, et la tante de Bi croise dans un bus un jeune homme de 16 ans, et il y a une grosse attraction pour ce jeune homme, et qui la bouleversifie. Donc en fait, ça exprime...
C'est une histoire d'homme, quoi.
Oui et non, alors voilà, parce que... En fait, c'est avant tout un portrait de femme qui s'émancipe du désir des hommes, et qui sont soumises en apparence. Elles représentent en réalité une force et un besoin pour les hommes faibles et égarés. Le scénario se centre sur les insatisfactions sexuelles.
Sur les insatisfactions,
voilà, sexuelles des personnages. Ce problème est tu parce que comme partout en Asie, on ne parle pas ouvertement de la sexualité. Donc il y a un rapport, et puis apparemment tout le long du film, il y a un rapport avec l'eau. Donc il y a la pluie, la glace et tout.
Ah oui, c'est ce qu'il dit, voilà, c'est la saison des pluies.
Voilà, c'est ça. C'est un sentiment renforcé par la lenteur de l'action et tout. Donc voilà.
Et je tiens à souligner que au Pestel, si vous allez le voir le dimanche 22 à la séance de 10h30, on vous offre le café croissant à partir de 9h30. Donc c'est plutôt sympa.
Ouais, tout à fait, ouais. Moi, je pense que c'est un film asiatique. Et je pense que voilà, il vaut aussi le coup de voir. C'est autre chose que la vie de ça, ce qui a l'air. Je pense. Bon, ça reste comique, mais je pense qu'il y a aussi des scènes de drame. Et bon, là, Hunger Games, c'est vraiment le truc bankable. Hein. Donc là, c'est vraiment.
Bankable.
Bah, c'est bankable. Oui, bah oui.
Faut y aller. Est-ce que tu penses que c'est un de ce genre de film où c'est mieux d'aller le voir au cinéma parce qu'il va y avoir des belles images, quoi.
Le Hunger Game,
ouais.
Oui,
parce que moi je le verrais bien, tu vois, mais
ouais,
bon.
Mais tout à fait. Non, mais je pense, ouais, mais c'est toujours pareil parce que là forcément il va y avoir des beaux paysages, ça va se jouer en forêt, donc forcément il y a tout ce côté grandiloquent du cinéma américain qui est bien en même temps. Mais,
juste comme ça pour dire, Hunger Game, c'est un bon film pour pécho.
Ah mais tout à fait. Oui, non, mais ça c'est le film d'adolescent, je veux dire, c'est la suite de Twilight, quoi, bon, en version
c'est
un peu
plus... suite de Twilight sans vampire.
Non, mais sans vampire. Non, mais je veux dire, voilà, c'est le nouveau personnage, la nouvelle héroïne des ados. Je veux dire, le Twilight, c'est quasiment fini, il me semble qu'il ne reste plus qu'un film. Mmh. Harry Potter, c'est terminé. Bon, là, il y a la grosse sortie de la fin d'année qui est Bilbo le Hobbit. Mais bon, voilà, et puis voilà, on arrive à la fin de pas mal de choses, et donc maintenant, je pense que le cinéma américain cherche ses nouveaux modèles, quoi. Enfin.
Très bien. Oui, je voulais parler d'un monsieur qui parle de la mort, justement, et qui s'appelle Pierre Desproges, et qui, aujourd'hui, est mort depuis 23 ans, le 18 avril 1988. Pierre Desproges est mort de son cancer, si je ne m'abuse.
Tout à fait. C'est lui qui avait fait le fameux truc de se dire « Je suis allé au restaurant, j'ai mangé un crabe. Résultat, match nul. » Voilà. Ouais, c'est ça.
Attends, mais est-ce qu'il en avait dit un autre plus fort que mon cancer, tu meurs, ou un truc comme ça,
oui, il me semble.
Plus triste que mon n'importe quoi. Bon, bref, et donc je voulais vous passer son sketch le plus connu sur est-ce qu'on peut rire de tout, oui, mais pas avec tout le monde.
Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec ça.
Française, français, belge, belge, extrémiste, extrémiste, mon président français de souche, mon émigré préféré. Mesdames et messieurs les jurés, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Madame Le Pen, public chéri, mon amour. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer ici même récemment,
ouais, elle est marre.
Avec un brio qui m'étonne moi-même, malgré la haute estime en laquelle je me tiens, depuis que je sais qu'il coule en mes veines plus de 90% de sang, vous allez rire, plus de 90% de sang à rien et moins de 3 grammes de cholestérol. Ah, les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. Qui pisait une émission de radio dite comique? ou au moins qui tente de l'être. Alors, le rire, parlons-en, et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Halimi, les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? À la première question, je répondrai oui sans hésiter, et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes coréligionnaires en subversion radiophonique, Louis Rego et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous... Tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poil horrible. Donc, on peut rire de tout, y compris de valeurs moins sacrées, comme par exemple le grand amour que vit actuellement le petit roi inamovible de la défense passive ici présent. Son grand amour s'appelle Marika, c'est la seule arienne au monde qui peut le supporter. Ce qu'on comprendra aisément quand on saura qu'il s'agit de la poupée gonflable en peau de morue suédoise que sa tata Rodriguez lui a envoyé de Lisbonne en paquet fado. Deuxième point, peut-on rire avec tout le monde ? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie, dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas.
Donc on peut aussi rire de la mort, il le dit. Du reste, est-ce que la mort, elle se gêne pour en rire de nous, hein ?
Ça, c'est ça. J'ai demandé. Je sais pas si on peut l'avoir en invité. Enfin, pas trop quand même.
Pas trop. J'aimerais autant pas, si c'est possible. Enfin bon, après, chacun son truc. Mais perso, je préfère pour l'instant la tenir un peu à l'écart.
Moi aussi.
Le thème de notre prochaine émission. La semaine prochaine, nous aborderons le cinéma de Tim Burton.
Tout à fait. Sa vie, son œuvre, son pédalo.
Il avait un pédalo, Tim Burton.
Mais tout à fait, tout à fait. Et en fait, si vous regardez bien dans chaque film, à un moment, il y a le pédalo. Non, je déconne. Oh non, mais l'autre, c'est bon, quoi.
Je pourrais laisser planer le doute jusqu'à la semaine prochaine.
Les mecs, ils vont s'emmerder. Mais
je n'ai pas vu ce pédalo, je ne le comprends pas. Bon, à la semaine prochaine, alors.
Ok. Allez, ciao, ciao. Arrête ton cinéma. L'émission qu'on adore regarder à la radio.